Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h. Philippe David.
Et c'est l'heure du débat de la semaine. Nous sommes en compagnie de Basile Gorin, directeur des affaires publiques de Medtronic France. Albert-Jean Mougin, bonjour, pardon.
Bonjour Philippe, bonjour
Bienvenue
à tous.
Bienvenue sur Sud Radio, Albert-Jean Mougin, ancien syndicaliste de l'éducation nationale, bonjour.
Bonjour Philippe.
Et Caroline Pilastre, consultante dans le domaine du handicap visuel, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour messieurs.
Bienvenue Madame. Sur Sud Radio également. Le débat du jour va tourner autour des gilets jaunes et des manifestations de la semaine qui ont quand même été très lourdes, dont l'acte 45 a eu lieu hier, le même jour que la marche pour le climat ou encore la manifestation contre la réforme des retraites organisée par Force Ouvrière. On va commencer, galanterie oblige, avec vous Caroline Pilastre. 10 mois de mobilisation, quand est-ce que ça va s'arrêter? On avait une gilet jaune tout à l'heure, Nathalie Delhérault, qui disait c'était 45 hier, la semaine prochaine 46, 47, 48, 49, 50.
Eh bien écoutez, si j'avais la réponse à cette question, je serais très heureuse, parce que moi ça m'entrave tous les week-ends. Alors, j'en avais déjà parlé précédemment, je comprends la revendication première des Gilets jaunes, c'est-à-dire celle sur le pouvoir d'achat et celle sur le carburant, parce qu'elle est partie justement de tout ce qui était précarité liée à l'essence, la hausse du carburant, surtout des gens en ruralité, évidemment, qui galéraient plus que nous, qui sommes, il faut le reconnaître, dans les grandes villes, un microcosme, on a la chance d'avoir des transports à disposition, on se rend moins compte de la difficulté justement pour se mouvoir avec des transports ou des services publics qui n'existent plus en province,
c'est
ou
clair.
Pratiquement plus. Mais il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'ils revendiquent actuellement. Parce que même si ce n'est pas la panacée, le président a quand même lâché 17 milliards, il a réindexé sur l'inflation les petites retraites, il a un peu augmenté le SMIG, il a entendu à ce qu'il a dit récemment, au Time, les revendications des Français, soi-disant il a changé, alors à voir si c'est de la communication ou non, mais moi j'aimerais savoir combien de temps ça va réellement durer sur le terrain, parce que entre les gilets jaunes qui méritent d'être entendus par rapport justement à la difficulté de vie qu'ils ont encore, et ça c'est légitime, je le redirai toujours, et les Black Blocs, les ultra-gauches
qui
se mêlent, qui s'intègrent et qui sont là uniquement pour faire régner la terreur et le chaos, on en a marre. Et je vais vous dire, les Parisiens, comme d'autres dans les grandes villes, et moi je parle de ma ville, puisque j'y vis, les commerçants, on en ras-le-bol, parce qu'en soi ce sont aussi des gilets jaunes, ils vivent la difficulté, il y a des commerces qui vont mettre la clé sous la porte, jusqu'à quand ça va durer comme ça? Voilà, moi je vais vous dire, j'en ai plus que marre là, tous les samedis.
Bon,
la question est légitime, et effectivement, je pense qu'aucun autour de la table n'aura la réponse ce matin, mais la question du temps est importante, parce que ce qu'on voit finalement, en creux, dans cette fameuse crise des Gilets jaunes, qui maintenant est une crise larvée depuis à peu près un an, c'est la confrontation, et pour être dans la santé, on retrouve vraiment les mêmes problèmes, entre le court terme et le long terme. On a aujourd'hui beaucoup de mal à faire entendre que pour garder une forme de pérennité, que ce soit la pérennité de notre système de santé, que ce soit la pérennité de notre système de retraite, que ce soit la pérennité de notre système d'assurance chômage, il est nécessaire et obligatoire d'entamer des réformes de fond, ces réformes qui sont plus ou moins ouvertes aujourd'hui par le gouvernement en place. Sauf que ces réformes en profondeur, dont les effets seront visibles à long terme, elles viennent télescoper un intérêt pour le court terme et pour l'instantanéité que je pense on n'a jamais vu dans nos sociétés occidentales depuis fort longtemps, et qui est mu et poussé par aujourd'hui cette culture de l'instantané, par presque cette twittocratie, puisqu'aujourd'hui dès que on a une revendication,
l'homme le plus puissant du monde fait tout par Twitter.
Mais bien sûr, mais
Trump,
alors,
ah ouais, Trump,
et quel exemple, ouais. Et quel exemple. Mais quand vous voyez aujourd'hui la marche pour le climat en parallèle de cette revendication des gilets jaunes, il y avait un très bon ouvrage d'ailleurs écrit sur le sujet, la fin du monde avant la fin du mois, ou la fin du mois avant
la fin du monde, c'était le slogan de la manifestation d'hier.
Et il faut réussir aujourd'hui, et c'est le rôle du politique je pense, et c'est peut-être là où aujourd'hui, on en manque le plus, à refaire de la pédagogie sur toutes ces choses, à expliquer l'importance de réformes de long terme et à essayer de convaincre ceux qui aujourd'hui continuent à manifester week-end après week-end, samedi après samedi, avec tous les désagréments que vous mentionniez et que je pense beaucoup de franciliens et d'habitants des autres villes de France regrettent et déplorent, la casse, les blocages, doivent aujourd'hui cesser et revenir dans une phase de dialogue qu'on a beaucoup de mal à créer en France.
Albert-Jean Mougin.
Ben la question aussi est que le politique puisse se faire entendre de ceux qui sont censés l'avoir élu ou ne pas l'avoir élu. Parce que le fond du problème, c'est qu'on a aujourd'hui installé, quand même, Je disais 54 tout à l'heure, j'anticipais. C'est 45, hein, 45e semaine de cette manifestation politique qui n'a pas de nom, qui n'a pas de contour, qui agrège souvent effectivement des mouvements de brutalité qui ont un sens par ailleurs et une intention. Et pour moi, il y a une chose simple qu'on doit avoir à l'esprit. On a le sentiment qu'on revendique l'idée que le peuple s'exprime quand il y a au maximum 2 millions de personnes dans la rue, et ce n'était pas le cas, mais on l'a vu, on en est à 15 000, alors qu'au grand maximum, donc, il y a eu 2 millions de personnes dans la rue, et je ne parle pas seulement de cette époque, mais des époques antérieures, je pense à la manifestation contre le mariage pour tous, il y a quelques années, et qu'il y a toujours eu au minimum 20 millions de bulletins dans les urnes. Ce qui est peut-être le plus grave dans ce qu'on a connu autour de la question des Gilets jaunes, et dont on devrait peut-être interroger la source à partir de ça, c'est la remise en cause d'une démocratie parlementaire qui rend précisément toute direction politique de long terme complètement caduque. Puis la maîtrise du temps,
oui.
La maîtrise du temps, oui, bien sûr, mais on a peut-être aussi un souci en France avec un quinquennat qui s'est substitué au septennat et qui empêche beaucoup de choses
ça, c'est une
dans
vraie
la
question.
Construction.
Mais Caroline Pilastre, on voit hier, il y avait Force ouvrière qui manifestait contre la réforme des retraites et la manifestation est passée quasi inaperçue, alors que la réforme des retraites, c'est vraiment l'agenda maintenant.
La réforme des retraites, bien évidemment, et puis les réformes, oui, liées au chômage, enfin, ça va être un gros dossier là.
Social.
Social, évidemment. Ça, c'est très bien passé. Pour le coup, ils ont très bien organisé leur manif. Hein.
C'est du côté professionnel. Du gouvernement Montparnasse.
Tout à fait, comme la manif pour le climat, les écolos. Hein, c'était même bon enfant, même si...
Il y a eu des black blocs qui sont infiltrés.
C'est ça le problème. C'est que maintenant, en fait, on ne comprend plus rien. Parce que, évidemment, dès qu'il y a une manifestation des Gilets jaunes, comme il n'y a pas de leader en soi. Donc, ils n'arrivent pas réellement à fédérer. Parce que quand vous les entendez...
Ils n'arrivent pas à organiser, si vous me permettez.
Déjà, ils ne s'organisent pas, mais il n'y a pas un leader déjà à la base. Quand vous les entendez parler...
Ni de socle d'idées.
Aussi, enfin, pour certains, parce qu'il y en a d'autres qui sont audibles, mais ceux-là, justement, sont très attaqués, sont même menacés. Les modérés, ceux qui avaient de la nuance au départ, ne sont plus dans les manifestations actuelles. Ils restent soit chez eux, soit font le tour des plateaux au niveau média. Mais moi, vraiment, ce qui m'inquiète, je vous le dis réellement, ça ne me gêne pas que les gens manifestent, à la rigueur, s'ils le font pacifiquement, comme ça s'est fait pour la marche sur le climat. Mais les Black Blocs...
Mais sur les retraites, comment expliquer qu'une manifestation sur les retraites, alors qu'on espère tous qu'on nous prêtera vie, Dieu nous prêtera vie jusqu'à l'âge de la retraite, on sera tous concernés.
Philippe, pour moi, la chose est très claire, et elle rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que la manifestation de Force ouvrière, qui est une organisation syndicale, qui a une tradition très forte de la manifestation, j'étais moi-même responsable d'un syndicat, je sais très bien que, quand je disais une organisation préalable, une manifestation se négocie avec la préfecture.
Oui, elle est encadrée, bien évidemment.
Il est absolument certain, et elle se négocie avant. Le problème est que, par définition, quand on est dans des manifestations spontanées, tout est possible. Le vrai problème dans cette affaire-là, c'est qu'on avait une manifestation organisée, et une manifestation inorganisée, traversée de mouvements brutaux, Black Bloc, etc. Ça, c'est le problème de la médiatisation et de l'apparence.
C'est ce qui intéresse tout le monde. Sur les retraites qui passent inaperçues.
Ben oui, mais parce que vous regardez les chaînes d'information en continu, vous écoutez les différents médias au cours du samedi, on commente quoi ? On commente les mouvements sur tel boulevard, les forces de l'ordre qui interviennent, les barricades qui brûlent. Donc, entre guillemets, une manifestation, un défilé qui n'entraîne pas de débordement, c'est entre guillemets, plus bankable pour les médias. Et c'est vraiment dommage. On tombe dans cette logique-là.
Vous êtes bien sur Sud Radio, 9h16. C'est le débat du week-end. On va continuer à décrypter cette actu sociale. Vous me passerez l'expression, mais comme disent nos amis belges, chaude comme une baraque à frites. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h. Philippe David.
Et le débat du week-end, on décrypte les événements de la semaine en compagnie de Basile Gorin, directeur des affaires publiques de Medtronic France, Albert-Jean Mougin, ancien syndicaliste de l'éducation nationale, et Caroline Pilastre, consultante dans le domaine du handicap visuel. Basile Gorin, au début de la semaine, c'était les professions libérales qui étaient dans la rue, avocats en tête, mais il y avait aussi les kinésithérapeutes, etc. Est-ce que vous pensez que l'automne va être chaud ?
Bah, en tout cas, il a tout pour être chaud. Et j'ai envie de dire que là, sur le papier, le gouvernement sait qu'il a devant lui des mois qui vont être particulièrement difficiles. On a même une réforme des retraites qui est déjà contestée avant que le texte soit déposé au Parlement. Donc,
Parce qu'il y a des choses qui fuitent, comme
bien
toujours.
Bien sûr, il y a des choses qui fuitent, comme toujours, mais on sait que de toute façon,
la retraite par pointe va faire que des perdants ou presque.
Et ça va être d'autant plus chaud qu'il y a une échéance politique majeure, quand même, qui s'appelle les municipales, qui va arriver au mois de mars de l'année prochaine, 2020, et qui va faire que l'opération va être extrêmement délicate, parce qu'il va falloir, pour les différents tenants du système politique, faire en sorte de ne pas froisser trop de monde pour éviter que les répercussions ne s'ensemblent dans les urnes. Mais on va, je pense, on pourrait presque faire une émission, je pense, tous les jours ou toutes les semaines, dans les mois qui viennent, pour commenter ce qui va se passer en termes de manifestations. Je ne sais pas si l'intérêt est vraiment là. Je pense que l'intérêt, il est de se dire comment est-ce qu'on réussit à sortir par le haut, entre guillemets, de ces différentes crises, que ce soit celle des Gilets jaunes, que ce soit celle annoncée, alors qu'elle n'a même pas encore commencé, de la réforme des retraites, et de garder comme idée en tête, et je reviens sur l'histoire du long terme, que ce qui constitue le socle aujourd'hui de notre démocratie et de notre manière de dialoguer ensemble, c'est nos institutions. Donc il y a quelque chose qui est au-dessus de tout ça et qu'il faut absolument chercher à préserver et qu'on ne doit pas abîmer, que les Gilets jaunes ne doivent pas abîmer, mais que le gouvernement ne doit pas abîmer non plus. C'est ce cadre institutionnel qui va nous permettre de dialoguer.
Mais alors justement, Albert-Jean Mougin, les professions libérales étaient dans la rue. Les avocats, il y en a qui gagnent très très bien. Il y avait même des ténors du barreau qui étaient dans la rue, qui gagnent extrêmement bien leur vie. Il y a des avocats qui ont du mal à boucler les fins de mois. Il y avait les kinés, dont certains vivent bien, dont beaucoup moins bien. Est-ce que ça sent la fronde généralisée?
Je ne sais...
la protesta, comme on dit en Amérique latine.
Oui, je crois plutôt que c'est un grand moment de débat social qui prend ses formes là où elles sont. La question même de gagner sa vie ou de la gagner mal par rapport aux retraites repose sur est-ce que les règles du jeu vont changer? Et est-ce que les règles dans lesquelles qui présidaient quand moi je suis rentré dans une fonction, dans un métier, vont être changées
et dans quel sens?
Donc il y a toutes ces questions là. Le risque social majeur, vous savez, on se dit un peu ça, je crois, à toutes les rentrées, il est certain qu'il est fort, il est certain que, là encore, oui, les institutions doivent rejouer pleinement leur rôle, hein, avec force, mais cela dit, si le problème est franco-français, il est aussi beaucoup plus large. Je ne sais pas si le président de la République, qui est quelque chose entre Boris Johnson et la reine d'Angleterre, risque moins que et Boris Johnson et la reine d'Angleterre. D'ailleurs, au passage, Philippe, vous qui aimez les références historiques, je pense qu'on devrait déjà songer à rénover Saint-Germain pour accueillir les Windsor après les Stuart, comme on les a fait il y a certains temps.
C'est la première chose à laquelle voilà, on devrait penser actuellement.
Bien sûr, mais vous savez, il faut toujours voir dans le long terme.
La donc, démocratie voilà. Est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres.
Ça, c'était voilà. Un autre britannique voilà. Churchill qui disait ça.
Belle référence.
Non, mais sérieusement, l'Angleterre ne sait pas où elle va.
Avec le Brexit,
et nous ne sommes pas finalement pauvres Français dans une situation bien inférieure.
Mais
justement, comment on ne sait pas nous non plus.
Il y a une vraie convergence des luttes là réellement. En dehors de la casse, du vandalisme, des saccages qui restent inadmissibles, il y a une véritable mobilisation. Il y aura beaucoup de manifestations.
Je vous coupe
encore.
Quand on voit les avocats qui se plaignent qu'on va prendre 2 milliards de leur caisse de retraite qu'ils ont en réserve pour les mettre dans le pot commun, on peut comprendre qu'ils
ne
sont pas
contents. Bien sûr, mais moi je le comprends pour les avocats, pour les kinés aussi. Ça, là-dessus, je trouve qu'il y a quelque chose d'injuste. Je veux dire, ils payent leur retraite, hein, ça reste du privé. Enfin bon, donc.
Et ce n'est pas un régime spécial.
Non, ça n'est pas un régime spécial. Dans ces cas-là, on met tout à plat pour tout le monde, mais de manière juste et égalitaire, sinon rien. Donc le problème, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Et au-delà de ça, il y a une véritable défiance politique.
Mais alors
c'est surtout ça, une défiance liée à l'élite et à la personne du président Macron en lui-même, quoi.
Mais ça, c'est clair. Mais par contre, les frondes, les protestas, pour y revenir, contre la loi El Khomri sous Hollande, elles sont quand même passées. Contre les ordonnances travail de Macron, elles sont quand même passées. Est-ce que le fait de manifester, que ce soit pour les avocats, pour les kinés, les gilets jaunes, les retraités, etc., ça sert encore à quelque chose? Ou est-ce qu'on se fait plaisir en descendant la rue en sachant que de toute façon, ça passera quand même?
C'est un trop-plein généralisé et qui, justement, pardon, s'est enclenché justement avec le mouvement des gilets jaunes. Ça fait 40 ans que c'est latent et ça a explosé d'un coup. Donc tout le monde a quelque chose à revendiquer. C'est légitime, une fois de plus, après, à voir la manière et la méthode.
Une fois de plus, une perte de sens majeure.
Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, c'est, comme vous le disiez très justement, ce n'est pas cette politique-là qui est en cause. Enfin, c'est aussi un héritage de 30 ans, de 40 ans, je pourrais le dire pour l'éducation nationale, etc. La question, c'est, et vous avez aussi souligné, et je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus, c'est les changements qu'on va provoquer dans la vie des gens en changeant des règles. C'est aussi ce qui menace les fonctionnaires de l'éducation nationale et qui auront des effets apparemment très forts sur la réalité des retraites attendues. Ça, c'est capital. Cela dit, on a aussi cette question qu'on a déjà soulignée. Il y a un défaut de pédagogie de la part du pouvoir. C'est cette vieille habitude française que le pouvoir décide, qu'il commande et qu'il
vient d'en haut.
Qu'il soit jacobin aussi.
Plus savant, qu'il sait mieux et qu'il fait pour le bien des gens. Les gens ont envie qu'on leur explique de quel bien il s'agit.
Et pour rejoindre ce que vous dites, il y a un vrai sujet autour du sens. Quel est le sens qu'on donne à tout ça ? C'est-à-dire une réforme des retraites. Si c'est une réforme paramétrique pour dire on va passer de 62 à 64, ou on ne va pas passer de 62 à 64, mais on va créer une espèce d'âge pivot qui va permettre de faire à peu près la même chose, mais sans dire qu'on le fait. Bon. Le vrai sujet, c'est quel est le sens de notre système de retraite aujourd'hui ? On a un système dont on sait qu'il n'est pas tenable à long terme. On a aussi des effets de démographie qu'on connaît très bien, de vieillissement, dont on le voit très bien dans la santé, de vieillissement de la population, qui a aussi plus en plus de besoins. Et on le sait depuis longtemps, mais parce qu'il faut à un moment donné un courage politique de le faire.
Ça ne change pas en 15 jours.
Et non, mais il y a un courage politique nécessaire à un moment donné pour faire une réforme. Mais si on ne fait que des réformes paramétriques, on le sait depuis longtemps, mais on change que des bidouillages. On fait du bidouillage à la marge. On aime bien bidouiller nos constitutions, on aime bien bidouiller nos systèmes, sauf qu'à force de faire du bidouillage, on casse les machines. Moi, ce que je ne comprends pas, en revanche, aujourd'hui, c'est qu'on est dans des égoïsmes, très, on dit on va remettre un système à plat pour tout le monde et revoir le système des retraites. À ce moment-là, si certaines professions libérales qui ont effectivement des réserves, on parlait des avocats tout à l'heure, ne sont pas d'accord, proposons-leur de faire en sorte que ces réserves basculent dans un système de fonds de pension, un système mutualiste, de complémentaire, et qu'on remette malgré tout tout le monde sur la même échelle.
Merci beaucoup à tous les trois. Basile Gorin, directeur des affaires publiques de Medtronic France, Albert-Jean Mouget, ancien syndicaliste de l'éducation nationale, et Caroline Pilastre, consultant dans le domaine du handicap visuel. On a bidouillé beaucoup, on bidouille beaucoup dans la politique française, et je crois, mon petit doigt me dit, qu'on va encore beaucoup débattre des retraites et des manifs dans les semaines qui viennent.